Vous écoutez, on lit pour vous.
Michel Cordy est bien plus que le gars en fauteuil roulant. Un texte d'Étienne Paré paru le 21 avril 2025 dans la presse. Michel Cordy crève l'écran dans Vestiaire. Cette comédie de situation mettant en vedette des acteurs handicapés qui tournent en dérision les situations loufoques que leur fait vivre leur différence. Celui qui travaille comme monteur dans l'industrie de la télé depuis une quinzaine d'années a longtemps caressé le rêve de passer devant la caméra, mais il avait fini par perdre espoir. Forcément, cette série est venue complètement changer sa vie. Un des super-pouvoirs qui vient avec le handicap, c'est que tu apprends très jeune à lire le regard des autres pour évaluer leur degré de malaise. Mais depuis un an, quand on me dévisage dans la rue, je ne sais plus si c'est à cause de mon handicap ou si c'est parce qu'on m'a vu à la télé. C'est assez spécial parce que je dois adapter mon analyse en fonction de ça, s'amuse Michel Cordy, qui souffre d'ostéogenèse imparfaite. Cette maladie congénitale, aussi appelée maladie des os de verre, le cloue à un fauteuil roulant. La croissance à l'enfance fut pénible, s'accompagnant de multiples fractures. Heureusement, Michel Cordy a eu la chance de grandir dans une famille aimante, où l'art occupait une place centrale. Sur les traces de son père, professeur de piano, il a joué de la batterie quand il était au secondaire. Mais c'est vraiment le théâtre et le cinéma qui ont toujours été ses véritables passions, comme en témoignent encore aujourd'hui les affiches de vieux films de Hitchcock qui ornent les murs de son appartement. Diplômé de l'Institut national de l'image et du son, INIS, Michel Cordy s'était résigné à travailler derrière la caméra à cause de sa condition. Vestiaire se sera avéré pour lui l'occasion inespérée de réaliser son rêve de jouer la comédie. Une émission qui n'aurait pas pu voir le jour à la télé il y a quelques années, selon Michel Cordy, conscient de profiter de ce mouvement en faveur de la diversité qui souffle sur l'industrie télévisuelle depuis quelques années. « Je ne crois pas que ça va toujours être comme ça. Il va rester une ouverture, mais il va y avoir un retour du balancier à un moment donné. Alors quand ça passe, aussi bien en profiter au maximum. » De raisonner avec lucidité Michel Cordy, qui nous recevait chez lui à l'occasion de la sortie de la saison 2 de Vestiaire. Transparence. La série à sketch, qui tourne autour d'un club de natation pour personnes handicapées, est adaptée d'un concept français. Les acteurs, à mobilité réduite pour plusieurs, y apparaissent souvent en maillot de bain, évoquant sans complexe leurs conditions. La première fois que je me suis vu à la télé en speedo, j'ai fait le saut. Je ne suis pas sûr qu'il y a 10 ans, j'aurais pu avoir le recul pour pouvoir jouer ça. Je n'acceptais pas autant mon handicap. Vestiaire est vraiment arrivé au bon moment dans ma vie, dit Michel Cordy. À l'approche de ses 40 ans, celui qui s'essaie maintenant au stand-up avec Andréanne Fortin, une autre comédienne de la série, n'a jamais été aussi heureux. Mais de son propre aveu, le début de sa trentaine a été assez rock'n'roll. Devoir conjuguer avec des limitations use le moral à la longue. Les frustrations et les déceptions s'accumulent. La tentation de se couper du reste du monde est grande quand celui-ci n'est pas adapté à nous. Pour Michel Cordy, l'alcool aura été un refuge. Sobre depuis 4 ans, il dit avoir réussi à s'en sortir grâce à son entourage. S'il a un conseil d'ailleurs à donner aux personnes qui ont du mal à vivre avec leur handicap, c'est bien d'éviter de se replier sur soi. Les problèmes d'alcool, c'est très courant chez les personnes qui ont un handicap. On vit de l'isolement, on prend des médicaments. C'est comme le cocktail parfait pour développer une dépendance. Malheureusement, c'est très tabou. On n'en parle pas. Moi, j'aurais aimé qu'à 16 ans, on me dise de faire attention à ces pièges-là, déplore-t-il. C'est la première fois qu'il aborde publiquement cette période tumultueuse. Visiblement, il est toujours difficile pour lui d'en parler et il ne souhaite pas s'étendre plus qu'il le faut sur le sujet. L'étiquette du gars en fauteuil roulant est déjà assez lourde à porter. Il ne veut pas avoir à être identifié comme celui qui a en plus combattu un problème d'alcool. Mon but dans la vie, ce n'est pas d'être une source d'inspiration. Depuis que l'on a commencé à faire vestiaire, on nous dit beaucoup que l'on est inspirant. Tant mieux si j'inspire du monde, mais ça ne peut pas être mon objectif. Moi, ce que je veux, c'est juste de vivre ma vie le plus normalement possible en essayant de montrer que je suis plus qu'un gars en fauteuil roulant, tranche Michel Cordé. C'était « Michel Cordé est bien plus que le gars en fauteuil roulant », un texte d'Étienne Paré paru le 21 avril 2025 dans la presse.
C'est comme être largué sur une autre planète. Voici comment cette femme a trouvé l'équilibre entre son autisme et son amour des humains. Un texte de Dominique Scali, paru le 19 avril 2025 dans TVA Nouvelles. Faire son lit chaque matin, prendre un bain pour recharger ses batteries d'extraterrestre, apprécier la beauté du chiffre 4. Le bonheur est dans les petites choses, explique une femme qui peut enfin être elle-même après avoir passé 38 ans sans savoir qu'elle était autiste. Citation : L'erreur qu'on fait, c'est de penser que le bonheur est un joueur de cachette. Ellipse. On le cherche, mais il est dans toutes les petites choses à côté de nous. Fin de citation, dit Mélissa Perron, 44 ans. Elle nous accueille dans sa maison lumineuse de Saint-Bruno de Montarville, qu'elle partage avec son conjoint et sa fille autiste de 11 ans, où elle travaille comme dessinatrice et romancière. À quoi ressemble le bonheur quand on est autiste? C'est un spectre, rappelle-t-elle. Il existe donc autant de définitions que de personnes. Par exemple, elle aime les câlins, alors que sa fille n'aime pas être touchée. Une de ses amies autistes adore voyager, tandis qu'elle tient à sa routine quotidienne. Un lit bien fait, ça c'est un bonheur, s'exclame-t-elle. Vive le jeudi. Du plus loin qu'elle se souvienne, elle a eu l'impression d'être une extraterrestre, raconte-t-elle dans son roman illustré Femme caméléon. Pour elle, les chiffres et les jours de la semaine ont des couleurs et des personnalités. Par exemple, le chiffre 4 l'apaise. C'est comme une bonne amie. Elle adore le jeudi, un jour associé au turquoise et qui évoque un gratte-ciel sans toit. Tout le contraire du mercredi, plutôt mesquin. Quand elle a appris que les autres ne faisaient pas ce genre de lien, elle s'est dit « c'est donc bien plate dans leur tête ». Mais derrière cette créativité, elle a longtemps vécu une grande détresse au point d'être incapable de terminer son secondaire et de dépendre de l'aide sociale. Dès l'adolescence, on lui a prescrit des antidépresseurs. Elle a enchaîné les faux diagnostics, anxiété, bipolarité. Paradoxe. À 38 ans, elle a vécu une deuxième naissance. En s'impliquant dans une campagne de la Fondation Véro et Louis, elle est tombée sur les critères que présentent les femmes autistes. Elle s'est reconnue et a enfin été diagnostiquée. Comprendre sa différence, c'est là que se cachait la clé de son bonheur. Citation. C'est une question de survie. Ellipse. C'est comme être largué sur une autre planète où tu ressembles à tout le monde. Mais tu ne te reconnais dans personne. L'humain a tellement besoin d'appartenir. Fin de citation. Citation. Je vais toujours être fâchée d'avoir perdu toutes ces années-là. Fin de citation. Comme beaucoup de filles autistes douées, elle était passée sous le radar. J'adore les gens. Je vous aime, je vous étudie, lance-t-elle. Mais pendant les interactions, son cerveau roule à pleine vitesse. Citation. J'ai comme une machine en moi qui dit « fais ça, fais ça ». Fin de citation. Le mode d'emploi relationnel, qui est instinctif pour la plupart, ne lui est jamais naturel. Elle a donc besoin de s'isoler pour recharger ses batteries. Idéalement, immergée dans l'eau d'un bain. En même temps, elle a souvent besoin de compagnie. Citation. C'est un grand paradoxe. Fin de citation. C'était « C'est comme être largué sur une autre planète ». Voici comment cette femme a trouvé l'équilibre entre son autisme et son amour des humains. Un texte de Dominique Scali, paru le 19 avril 2025 dans TVA Nouvelles.
Moi de la sensibilisation à l'autisme. Aller vers l'autre. Dites bonjour aux gens qui sont différents, dit Mathieu Gratton, humoriste et papa du comédien de Stat, Benjamin Gratton. Un texte de Sarah Emilneau, paru le 19 avril 2025 dans le Journal de Montréal. Il suffit de passer un court moment avec Benjamin et son papa, Mathieu Gratton, pour être témoin du beau lien qui les unit. En ce mois d'avril, mois de la sensibilisation à l'autisme, le journal a eu envie de discuter avec l'interprète de Siméon dans Stat et son père humoriste, qui sont également les fiers porte-parole de la Fondation Bene & Co. Le mois de l'autisme, qu'est-ce que ça représente pour vous deux? Mathieu. C'est une occasion de sensibiliser la population sur l'inclusion et la notion d'aller vers l'autre. Avec la chanson de cette année, Le Tournesol, chantée par Yannick Fournier, c'est de cela qu'il est question. Ne pas avoir peur d'aller vers l'autre, même s'il marche d'une autre façon ou qu'il peut avoir l'air différent ou dans son monde. Aller vers l'autre. Dites bonjour aux gens qui sont différents. Ils existent. Saluez-les. Tu aimes être salué dans la rue, Benjamin? Oui, j'aime ça, lance-t-il, en ajoutant que Yannick Fournier, avec qui il a tourné le clip de la chanson de sensibilisation, est très gentil. Quel bon choix cette année, car Yannick sait ce qu'est le regard des autres. Elle a adopté deux enfants autistes, ajoute Mathieu Gratton. Benjamin, qu'est-ce que tu es fier d'être capable de faire tout seul? Prendre le transport en commun, le train, le REM, l'autobus, le métro. Faire des activités avec mes amis, comme une fois, je suis allé au concours d'habileté des Canadiens au Centre Bell et voir le Rocket à Laval. Je me rends là tout seul. Mathieu, quelle est la plus grande idée préconçue sur les gens autistes? Qu'ils sont tous extrêmement doués dans une chose en particulier. Ce n'est pas vrai pour tout le monde. Aussi, ils sont capables de beaucoup plus qu'on le pense. Leur potentiel est là, il faut juste les pousser. Comme pour monter l'Everest, Benjamin a besoin d'un Sherpa pour atteindre son plein potentiel. Les amis, la famille, l'école. Il faut leur donner la chance et accepter l'erreur. Moi, Benjamin, je l'encourage dans son autonomie. Quels sont les bons termes à utiliser? L'autisme n'est pas une maladie. On n'est pas atteint d'autisme. Il faut dire une personne autiste. Mais moi, je suis bien indulgent là-dessus. Qu'est-ce que vous aimez faire ensemble, Benjamin? Aller voir une partie de baseball, aller au cinéma avec un banc spécial qui vibre. Sinon, on est plutôt des sportifs de salon. On va regarder les séries avec les Canadiens. Il y a la vie d'hôtel aussi qu'on aime sur la route. J'ai trop de fun avec lui en tournée. C'est pour cela que j'écris un autre spectacle dans lequel il sera encore plus impliqué. Benjamin participe déjà au spectacle de son papa et sa maman, Les Exséparables. Ça me tente. J'aime ça être sur scène, réplique le jeune homme de 23 ans. Le projet Le Monde de Benjamin lui amène aussi beaucoup de fierté et aide des gens qui s'inspirent de ce qu'il est capable de faire. Nous, ça nous pousse à faire des activités ensemble, à essayer de nouvelles choses. Benjamin, parle-moi de ton travail comme acteur dans Stat. Il interprète Siméon dans la série. Benjamin, Geneviève Schmitt est très gentille. « J'aime ça, la télé, et j'aime apprendre », répond Benjamin, qui étudie ses textes avec son père ou sa mère, la comédienne et animatrice Patricia Paquin. Mathieu, c'est un truc de famille. Sa carrière va continuer s'il y a de la demande et si les parents disent OK et sont disponibles. Il faut aller le porter, l'aider avec ses textes. Avoir des parents connus, c'est commun. Tu devrais inverser la question, répond aussitôt Mathieu Graton. Je suis rendu le père de Benjamin. Rire. Les gens ne savent pas qui je suis, mais regardent Stat et reconnaissent Benjamin. C'est une belle fierté. Mon rêve serait de décrocher un petit rôle dans Stat et de le croiser dans l'hôpital. J'adorerais ça. Benjamin s'esclaffe. C'était moi de la sensibilisation à l'autisme, aller vers l'autre, dites bonjour aux gens qui sont différents, dit Mathieu Graton, humoriste et papa du comédien de Stat, Benjamin Graton. Un texte de Sarah Emilino, paru le 19 avril 2025 dans le Journal de Montréal.
Les partis fédéraux invités à légaliser les demandes anticipées d'aide médicale à mourir. Un texte de Catherine Desautels, paru le 24 avril 2025 dans Le Devoir. Le Collège des médecins du Québec, CMQ, demande aux partis fédéraux de se prononcer sur l'aide médicale à mourir, AMM, plus précisément, de s'engager à modifier le code criminel afin que les médecins du Québec puissent donner ce soin en toute légalité pour les cas de demande anticipée. L'aide médicale à mourir a été légalisée en 2016 par le gouvernement libéral pour les personnes dont la mort était raisonnablement prévisible. En 2021, la loi a été modifiée afin que les Canadiens souffrant d'une maladie grave et incurable puissent demander l'AMM, sans que leur mort soit nécessairement prévisible. Le Québec voulait aller encore plus loin. Il a adopté une loi provinciale autorisant les demandes anticipées en octobre 2024. Cela permet aux personnes atteintes de maladies dégénératives graves comme l'Alzheimer de demander l'aide médicale à mourir avant que leur état de santé ne s'aggrave trop pour pouvoir faire la demande de manière libre et éclairée. Cependant, le gouvernement du Québec n'a pas attendu qu'Ottawa modifie son code criminel pour aller de l'avant avec la mise en place de son projet de loi sur les demandes anticipées. Cela fait en sorte que, techniquement, les médecins qui prodiguent l'AMM dans ce contexte commettent une infraction, mais concrètement, ils ne sont pas poursuivis. Cela pourrait toutefois être chamboulé si un prochain gouvernement conteste la loi et qu'elle est invalidée par un tribunal. Au niveau provincial, le ministre de la Justice et procureur général du Québec, Simon Jolin Barrette, avait demandé au directeur des poursuites criminelles et pénales, DPCP, de s'assurer que les conditions prévues à la loi concernant les soins de fin de vie soient respectées lors de sa décision de porter ou non des accusations criminelles. Le DPCP a par la suite donné une directive à l'intention des procureurs du Québec de ne pas déposer de poursuites criminelles en lien avec un décès survenu dans le contexte de l'aide médicale à mourir ou de laisser une poursuite privée suivre son cours si la preuve démontre que cela a été prodigué dans le respect de volontés exprimées de façon libre et éclairée. Pour le Collège des médecins, il n'en reste pas moins que le code criminel ne permet pas qu'on puisse prodiguer l'aide médicale à mourir à une personne qui souffre de démence et qui aurait fait une demande anticipée. L'aide médicale à mourir, AMM, fait consensus dans notre société et doit être à l'ordre du jour de la campagne électorale. C'est pourquoi le Collège des médecins du Québec demande que tous les chefs s'engagent à modifier le code criminel afin que s'applique enfin, en toute légalité, la loi québécoise permettant les demandes anticipées d'AMM, a fait valoir dans une lettre ouverte publiée la semaine dernière le Dr Maurice Gaudreau, président du CMQ. Il veut aussi que les enjeux relatifs aux cas de santé mentale fassent partie du débat politique. Au même titre que les personnes handicapées physiquement, celles qui sont aux prises avec des troubles mentaux souffrent d'une même douleur. La situation actuelle les discrimine, dénonce le docteur Gaudreau. Ce que les partis politiques disent. Les néo-démocrates affirment vouloir élargir le débat sur l'AMM. Le NPD s'engage également à s'assurer que d'autres questions plus complexes soulevées dans la décision de la Cour du Québec soient abordées dans la prochaine révision de la législation. Il s'agit notamment de l'accès à ce type de soins pour les personnes souffrant de maladies mentales, de l'accès pour les mineurs compétents et du renforcement des garanties protégeant la population canadienne contre les pressions ou la coercition lorsqu'il s'agit d'aide médicale à mourir, mentionne le parti dans une déclaration écrite. Le nouveau Parti démocratique, NPD, se dit ouvert à modifier le code criminel, mais il ajoute qu'on doit prendre le temps de faire les choses correctement. Santé Canada mène actuellement des consultations sur la modification de la loi afin de permettre aux gens de faire une demande anticipée d'aide médicale à mourir. Ses principales conclusions devraient être publiées au printemps. Modifier le code criminel pour que les demandes anticipées soient légales au Québec est une priorité pour le Bloc québécois. Il s'engage à déposer un projet de loi permettant les demandes anticipées dans le code criminel pour les provinces et territoires qui ont légiféré en cette matière. Le printemps dernier, le Bloc avait déposé un projet de loi en ce sens. En ce qui concerne l'AMM pour les troubles de santé mentale, sans se prononcer fermement, le Bloc souligne qu'un comité fédéral avait conclu que les services de santé n'étaient pas prêts et qu'il n'y a pas consensus auprès des experts au Québec. Les libéraux ont quant à eux fait valoir qu'ils étaient déterminés à protéger les personnes les plus vulnérables et à travailler en étroite collaboration avec les provinces et les territoires sur la question de l'aide médicale à mourir. Notre approche privilégiera toujours la compassion, la dignité et le soutien nécessaire aux personnes qui en ont besoin, mentionne par écrit un porte-parole du Parti libéral du Canada, PLC. Les conservateurs n'ont pas répondu aux questions de la presse canadienne acheminées par courriel. Un peu plus tôt dans la campagne, le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, avait dit qu'un gouvernement conservateur maintiendrait le régime d'aide médicale à mourir du pays. Cependant, il ne compte pas l'élargir aux demandes anticipées comme l'a fait le Québec. C'était « Les partis fédéraux invités à légaliser les demandes anticipées d'aide médicale à mourir ». Un texte de Catherine Desautels, paru le 24 avril 2025 dans Le Devoir.
Consensus à Québec pour une interdiction complète. Un texte de Vincent Larrain, paru le 22 avril 2025 dans La Presse. Vivrait-on les derniers moments du cellulaire à l'école? C'est ce qui est permis de croire maintenant que tous les partis à Québec s'entendent pour réclamer une interdiction complète des cellulaires dans les établissements primaires et secondaires dès la prochaine rentrée. La commission parlementaire transpartisane, qui étudie depuis l'automne dernier la question du temps d'écran et des réseaux sociaux chez les jeunes, a surpris mardi en y allant d'une première recommandation. Il s'agit d'interdire les cellulaires, des écouteurs et autres appareils mobiles personnels, et ce, dès la rentrée scolaire 2025-2026. Cette interdiction durerait jusqu'à la fin des cours et serait en vigueur sur tout le terrain de l'école, peut-on lire dans le rapport intérimaire déposé mardi par la présidente de la commission, la députée de la Coalition Avenir Québec, Amélie Dionne. La commission doit présenter d'ici le 30 mai prochain un rapport plus étoffé contenant des recommandations sur d'autres sujets abordés lors de ces consultations, notamment la question de la majorité numérique. Mais à l'approche de la rentrée 2025-2026, nous estimons important d'offrir au gouvernement et au personnel du primaire et du secondaire un maximum de prévisibilité en vue d'une éventuelle mise en œuvre de la recommandation sur l'interdiction du cellulaire, peut-on lire dans le rapport. toujours bien présent. La commission s'en remet au conseil d'établissement et aux équipes écoles afin qu'ils soient pleinement impliqués dans la mise en œuvre de l'interdiction du cellulaire à l'école. Les cellulaires sont déjà interdits à l'intérieur des classes en vertu d'une directive en vigueur depuis janvier 2024 par le ministre de l'Éducation, Bernard Brinville. Mais ils peuvent toujours être utilisés le midi et pendant les pauses. Malgré l'interdiction d'utiliser un cellulaire en classe, les appareils mobiles individuels demeurent bien présents dans les cafétérias, les corridors et les cours d'école, observe la commission dans son rapport. Ce qui n'est pas sans conséquence puisque, comme l'a expliqué le service de police de la ville de Montréal, plusieurs cas de menaces de diffusion d'images intimes prennent naissance dans les établissements scolaires durant les heures de classe. Drainville ouvert. Pas plus tard qu'en janvier dernier, en entrevue avec le Journal de Québec, le ministre Bernard Drainville se disait très ouvert à l'idée d'élargir cette interdiction à l'ensemble de l'école. Mais il disait vouloir laisser la chance aux membres de la commission d'y aller d'abord de leurs recommandations. Il a répété mardi qu'il accueillait avec beaucoup d'ouverture et beaucoup d'intérêt l'interdiction mur à mur suggérée mardi, mais il ne s'est pas plus avancé pour le moment. Le ministre reconnaît tout de même qu'une décision doit être prise très rapidement en vue de la prochaine rentrée. Une telle mesure risque malgré tout de déplaire aux principaux intéressés. Une consultation menée par la commission révèle qu'à peine 15,2% des 14 à 17 ans la soutiennent, une proportion qui bondit à 78% chez ceux qui s'identifient comme parents. La majorité d'entre eux nous ont exprimé leur attachement au cellulaire à l'école, qu'ils utilisent pour échanger avec leurs amis pendant la pause du dîner, rester en contact avec leurs parents ou simplement se divertir entre deux cours. Bon nombre d'élèves font aussi valoir le caractère pratique de cet appareil. Ils s'en servent pour payer à la cafétéria et pour vérifier l'horaire des autobus, détaille le rapport. La commission se dit consciente que cette interdiction ne réglera pas tous les problèmes. Elle s'ajoutera à d'autres recommandations qui seront dévoilées à la présentation de son rapport final, indique-t-elle. C'était Consensus à Québec pour une interdiction complète, un texte de Vincent Larrain paru le 22 avril 2025 dans La Presse.